On répète souvent que des mauvaises performances sont souvent expliquées par un manque de mental. C'est très français aussi de dire ça, que le sportif n'a pas réussi, en tout cas parce qu'il n'a pas le mental, etc. Déjà, est-ce que tu aurais, toi, une définition, pour que ce soit plus concret pour nous, de ce qu'est le mental, en fait ?
Ok. Alors...
Salut, c'est Cléo et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongistes professionnels, aficionados du Stade Vélodrome, médecins du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer, dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute!
Bonjour tout le monde! Alors, avant de commencer ce tout premier épisode de l'année, je voulais tout d'abord vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse nouvelle année qui, on l'espère, vous permettra de vous réaliser et de laisser éclore ou d'affirmer encore plus la championne ou le champion qui est en vous. Et quoi de mieux avec un programme pareil que de commencer l'année avec un épisode qui s'intéresse au mental? Nous sommes allés il y a plusieurs semaines à l'INSEP, rencontrer Anaëlle Malherbe, l'une des psychologues et coach mentale de l'établissement, pour essayer d'en apprendre un peu plus sur les mystères de notre cerveau et surtout comprendre les bienfaits d'un suivi psychologique pour les sportifs sur leur performance. Un sujet encore tabou dans le sport français et qui pourtant concerne tout le monde, du sportif professionnel à nous, coureurs et coureuses du dimanche. Vous ne le savez que trop bien, dire que nos athlètes n'ont pas assez de mental est devenu un sport français. Coucou la Fédération Française de la Loose. Mais malheur, Anaëlle nous expliquera pourquoi cette expression ne veut rien dire. Et en bonus, elle nous expliquera comment, sans être sportif professionnel, nous pouvons, nous aussi, nous approprier les méthodes des plus grands champions. À vos marques, prêts, bonne année. Salut Anaëlle.
Salut.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, en tout cas pour participer au podcast.
Avec plaisir.
Donc pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, Anaëlle, tu es psychologue du sport et préparatrice mentale.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, ma première question, nous expliquer quelle est la différence entre être psychologue du sport et coach mental ?
Ok. Alors, psychologue, c'est même psychologue clinicienne. Déjà sur la formation, on est sur 5 ans d'études en psychologie. L'idée, c'est plutôt d'accompagner les athlètes sur différents champs. Il va y avoir tout ce qui est prévention et tout ce qui est soins ou on va dire thérapie. Donc on va être sur des sujets type des fois des problématiques relationnelles avec l'entraîneur, les amener à mieux comprendre leur mode de fonctionnement, accompagner quand il y a de la dépression, quand il y a de l'anxiété, quand des fois même il y a des troubles du comportement alimentaire, ou juste en prévention, être là en soutien par rapport à des choses qu'ils peuvent vivre au quotidien. Donc psychoclinicien, donc on est spécialisé vraiment sur ces 5 ans d'études, et tout ce qui est préparation mentale, c'est un autre type de diplôme qui pour le coup lui est pas protégé, contrairement au psy, donc tout le monde pourrait se dire préparateur mental. Souvent, c'est des formations qui sont universitaires et donc on est plutôt, on va dire, orienté solution. Donc c'est orienté aussi sur la perf et par rapport aux problématiques ou aux besoins des athlètes, de les aider à trouver des leviers ou développer des habiletés mentales pour mieux performer à l'entraînement et en situation de compétition. Donc les deux sont liés. Mais il y en a une qui va travailler plus sur l'inconscient et sur le mode de fonctionnement pour être sur le mieux-être et dans un deuxième temps sur la perf. Là où sur la prépa mentale, on est directement, on va dire, sur le symptôme sportif et dans l'idée d'améliorer la perf.
Okay. Parce que du coup, toi, tu travailles à l'INSEP.
Exactement.
Donc tu travailles quasiment qu'avec des athlètes ? Tu travailles avec d'autres personnes ?
En fait, mon activité principale, c'est l'INSEP. Je suis avec beaucoup d'athlètes en suivi indiv. Je travaille aussi avec 3 équipes de France et avec des entraîneurs. Donc, c'est des publics... on va dire que l'intervention est différente. Je suis aussi très orientée sur le terrain. Et en parallèle, j'ai une petite activité plus en libéral où l'idée, c'est de pouvoir continuer à développer ma clinique. Donc, pas être uniquement avec des athlètes de haut niveau, mais ça peut être des enfants ou des adultes qui vont avoir des problématiques de tous les jours. Et au final, les athlètes peuvent aussi rencontrer ces problématiques-là.
Ok. Donc, tu parlais du coup que tu travaillais avec trois fédés françaises. Comment ça se passe ? C'est eux qui viennent te chercher ? C'est toi qui es missionné par l'INSEP en l'occurrence pour aller travailler avec eux ? C'est eux qui te choisissent ? Enfin, comment ça se passe ?
Alors, sur le fonctionnement, l'INSEP, on est 5 psys. Avec des missions différentes. Avant, j'étais au médical. L'idée, c'était plutôt d'être sur la prévention, les bilans psy et l'aspect, on va dire, thérapeutique et un peu de prépa mental. Là, au pôle perf, je suis principalement sur l'accompagnement à la performance. On est peu à intervenir là-dessus. Du coup, il y a beaucoup de demandes. Sur les fédés, par exemple, sur la fédé d'escrime, au départ, j'ai commencé à suivre une athlète, puis deux, puis trois, et donc du coup aussi à faire des débriefs aux entraîneurs. Et c'est comme ça que le lien s'est créé, que maintenant je travaille beaucoup avec l'escrime, et je les accompagne aussi sur certaines compétitions. J'ai eu la même chose là récemment sur la gym, où il y a eu l'aviron et la boxe, et du coup, pareil, il y a une demande, et c'est aussi souvent de part le travail qui est fait avec les athlètes qu'à un moment donné les staffs demandent à avoir un travail d'accompagnement plus large sur l'équipe.
Et pour revenir du coup un peu sur ton parcours, comment t'en es arrivé à ce métier-là ? Est-ce que toi-même t'étais sportive ? Est-ce que c'était une volonté je sais pas, par ton parcours personnel d'aider les sportifs ou pas forcément ?
En fait, ça a commencé par la sphère psycho, et c'est venu assez jeune, c'est venu en seconde, où je me suis dit que j'allais très probablement me diriger vers cette voie-là. Je pense que naturellement, je suis plutôt à l'écoute des gens et en empathie, et du coup, ça m'a orienté vers la psycho pour à la fois chercher à mieux comprendre le fonctionnement humain, parce que pour moi, l'humain est à la fois beau et à la fois très complexe, et puis des fois, il y a des situations de vie qui peuvent être extrêmement difficiles à gérer. Donc, mon optique, c'était mieux comprendre le fonctionnement et apporter aussi des solutions, apporter de l'aide pour, à petite échelle, on va dire, chercher aussi à changer un peu le monde, à améliorer, on va dire, la vie des gens au quotidien. Et j'adore le sport. J'en ai pratiqué énormément en étant plus jeune et je continue à en faire un peu moins en ce moment. Là, je suis plus sur la boxe thaï. Avant, j'étais judo. Okay. Et du coup, je me suis spécialisée à la fin de mes études justement en psycho du sport. En plus de, je travaille aussi en psychotrauma. Et quand l'opportunité s'est présentée, j'ai pu commencer à travailler à l'INSEP à temps partiel. Et au fur et à mesure, ça s'est fait à temps plein. Donc, en gros, j'ai allié deux passions, la psycho et le sport.
Pour venir sur l'aspect de ton métier, quels sont, du coup, tu parlais un peu d'empathie tout à l'heure, je rebondis là-dessus. De ton point de vue, quels sont les talents ou les qualités, en tout cas, que doit avoir une personne qui fait ton métier, qui est psychologue ou en tout cas coach mental ? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses impératives à avoir, que du coup, tu as, pour bien faire ce métier-là ?
C'est une bonne question. je pense que l'empathie, en tout cas sur le... Enfin, déjà principalement sur l'aspect psycho, parce que pour moi, je suis d'abord psychologue clinicienne et ensuite préparatrice mentale. Clairement, il y a l'empathie et ça, c'est quelque chose qui peut se travailler, mais qui est aussi assez naturel dans les modes de fonctionnement. La capacité d'écoute, une capacité d'analyse, c'est-à-dire réussir à comprendre le mode de fonctionnement de l'autre, mais aussi en le mettant en perspective par rapport à son contexte familial ou même sociétal. Et puis aussi avoir, et ça se travaille, la capacité d'être à la fois à l'écoute de ses ressentis, de ses représentations, de ses propres problématiques aussi, pour en écho savoir ce qui appartient à l'autre en termes d'émotions et de représentations et ce qui nous appartient à nous-mêmes, pour éviter de projeter sur son patient ou sur l'athlète ses propres représentations. Et pour moi, ça, c'est clairement primordial. Après, sur l'aspect préparation mentale, je pense qu'on est plutôt dans la même optique. C'est être d'abord à l'écoute de l'autre et pas chercher à imposer ses choix ou ses solutions. Parce que vu qu'on est plus orienté solution sur la prépa mentale, c'est aussi vraiment avoir ce garde-fou-là en termes de posture.
Ouais. Pour plus aborder peut-être l'aspect, dans un premier temps, prépa mentale.
Ouais.
C'est vrai que, et pour revenir sur la thématique du sport, qui est une thématique du coup, qui nous intéresse quand même particulièrement, souvent, on répète souvent, c'est vrai, dans le quotidien, que, dans des performances sportives, que des mauvaises performances sont souvent expliquées par un manque de mental.
Ouais.
C'est quelque chose qui revient très souvent. C'est très français aussi de dire ça, que le sportif n'a pas réussi, en tout cas parce qu'il n'a pas le mental, etc. Déjà, est-ce que tu aurais, toi, une définition, pour que ce soit plus concret pour nous, de ce qu'est le mental, en fait ?
Ok. Alors, on va dire que sur l'aspect mental, tu as trois types d'habilités. Tu vas voir ce qu'on appelle les habilités de base. Donc, c'est celles qui sont limite les premières à construire pour que les autres se développent plus facilement. Il y a tout ce qui est confiance en soi, la capacité d'engagement, l'aspect motivationnel et la fixation d'objectifs, qui est aussi un peu un outil. Donc une fois que t'as ça, tu peux aller plus loin sur des habilités cognitives et des habilités qu'on appelle psychosomatiques. Tout ce qui est cognitif, ça va être le traitement de l'information. C'est comment t'arrives à prendre une décision pertinente au bon moment. Tu vois, par exemple, à l'escrime, les touches, elles sont hyper rapides.
Ouais.
Donc c'est aussi savoir prendre l'info de ton adversaire, savoir toi ce que tu veux faire et en même temps, en réaction, trouver la bonne solution au bon moment. Il va y avoir tout ce qui est gestion de la concentration, mais aussi des distractions. Sur quoi tu te focalises ? Est-ce que ton point de focus il est pertinent ou pas ? Comment tu gères les distractions type une injustice liée à l'arbitrage, des gens dans le public par exemple, tes proches, est-ce que c'est positif ou est-ce que t'as peur d'échouer, un adversaire qui prend son temps ou qui a une attitude qui peut t'agacer, etc. Donc gérer aussi ces éléments-là. Et puis t'as tout ce qui est imagerie mentale, enfin c'est un outil en soi que tu peux avoir pour gérer la blessure, gérer la confiance en soi, développer des gestes techniques ou des schémas tactiques, etc. Donc, habilité cognitive. Et après, habilité psychosomatique, en gros, c'est, si je caricature, plutôt ce qui est en lien avec la gestion des émotions et ton activation. Donc, comment tu arrives à te relâcher, à te relaxer, comment tu gères ton stress, comment tu gères ton agressivité, soit pour la diminuer, soit pour l'augmenter selon les situations et les sports, et comment tu gères ton niveau d'activation, c'est ton niveau d'éveil en fait, physique et mental. En gros, à zéro, tu dors, t'as peu de pensées et t'es plutôt à tonne, il n'y a pas d'énergie. À 10, bah, peut-être que t'es en train de perdre énormément d'énergie, ce qui va avoir un impact sur ta journée quand tu commences à 7h et que tu finis à 19h, comme au judo par exemple. Donc voilà, ces trois types d'habilités-là sont, on va dire, ce qui va représenter le mental dans les grandes lignes.
Ok. Et est-ce que du coup, toi, de ton point de vue, c'est quelque chose qui fait sens quand quelqu'un de lambda dans la vie va dire « Ouais, mais de toute façon, il n'a pas réussi parce qu'il n'a pas de mental. » Est-ce que du coup, ça a une résonance pour toi qui est vraiment...
En fait, je trouve ça assez bateau comme réplique, parce que tu peux tout mettre dans le mental. C'est comme quand on dit « Vas-y, concentre-toi. » Ouais, ok.
Sur quoi ?
Mais sur quoi ? Exactement. Et du coup, ce qui se passe, alors, en tout cas au moins en France, c'est que sur l'aspect prépa mental, on est un peu en retard par rapport aux Anglo-Saxons, par exemple, ou aux Américains. Tu vois, j'étais sur un regroupement international il y a un mois avec les Américains. Globalement, ils sont quand même beaucoup plus outillés que nous parce qu'ils ont aussi plus de staff. La différence, elle va se faire sur le mental à très haut niveau. Parce qu'à un moment donné, tu as tellement développé tes habilités techniques, tactiques et physiques que à très haut niveau, ils sont assez proches sur ces trois piliers-là. Et donc, ce qui peut faire la différence, c'est l'aspect mental. C'est comment tu vas gérer la pression, comment tu vas réussir tout simplement à être présente à l'instant T sur les bons éléments pour dérouler ce que tu sais faire. Et donc, du coup, quand on dit il manque de mental, pour moi, ça parle pas.
Ça veut rien dire.
Parce que c'est trop large. Et en même temps, c'est vrai que ça fait la différence à haut niveau.
Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. C'était ma question juste après, justement. Tu disais que nous, en France, on était un peu en retard par rapport à ça, le coaching mental, alors qu'aux États-Unis, c'est une pratique qui est très développée, qui sont plus staffées. Effectivement, on a l'impression que ça a mis beaucoup plus de temps à se mettre en place en France. Comment tu l'expliques, ça ?
Je pense qu'il y a différentes raisons. Déjà, les anglo-saxons ont une autre manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'ils vont être, je pense, beaucoup plus dans l'action et après dans la réflexion, là où nous, les Français, on réfléchit beaucoup, des fois trop longtemps, mais aussi de manière assez pertinente, je pense. Et après, on passe à l'action. Ensuite, il y a le fait que on a d'abord cherché à développer la prépa physique. Avant, t'avais les entraîneurs qui faisaient tout. Maintenant, t'as un préparateur physique dans chaque staff. Et ça reste quand même assez récent au niveau temporel. Et donc maintenant, on est en train de développer la prépa mentale. Il y a aussi, je pense, des gens qui sont pas dans la bonne posture au niveau de la prépa mentale. Et ça fait aussi, en fait, tâche sur notre métier. Donc ça peut aussi mettre un peu plus de temps à se développer. Il y en a qui ont des postures plutôt de gourou. Et du coup, vu que justement, la préparation mentale, contrairement au psycho, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un titre qui est protégé. Tu peux avoir aussi un peu de tout.
Ouais.
Et puis, on n'est pas assez nombreux, clairement. Et il faut des moyens, financiers. Et pour l'instant, le sport français va privilégier peut-être plus la prépa physique, l'entraînement, etc. Et dans un deuxième temps, la préparation mentale. Donc c'est en train de se développer, je pense que c'est vraiment en plein essor, mais on est en effet peut-être un peu plus en retard que les anglo-saxons.
Et est-ce que tu penses que ça a un lien aussi peut-être avec les sportifs eux-mêmes, dans le sens où ça peut être aussi encore... Enfin, c'est totalement personnel, mais j'ai aussi l'impression que c'est encore un peu tabou de dire pour un sportif, par exemple, qui va consulter un psychologue. Le coaching mental, je pense moins parce que je pense que c'est plus ancré en tout cas dans les représentations. Mais c'est vrai que par exemple pour un psychologue, un sportif aller voir un psychologue, on a l'impression que c'est encore un peu tabou. Il y en a certains qui prennent la parole en disant que quand ils ont eu des échecs, ils sont allés voir un psychologue, etc. Mais j'ai encore l'impression que c'est assez rare. Mmh. Est-ce que tu as ce même sentiment ?
Ouais, tout à fait. En fait, psy, ça continue à faire peur en France, alors que tu vois, États-Unis, c'est limite à la mode d'avoir ton psy.
Ouais.
Donc déjà en termes de représentation, c'est assez différent. Du coup, il y a pas mal d'athlètes qui vont préférer garder ça en off. Et même un peu sur la prépa mentale, de se dire j'ai pas forcément besoin d'aide, ou si j'y vais, c'est que j'ai un problème.
Ouais.
Non, c'est pas forcément que t'as un problème. Et ça, je pense que c'est une fausse représentation, mais qui est très présente dans notre société française.
Mmh.
Alors même que tu peux aller voir un psy pour mieux comprendre ton mode de fonctionnement ou développer des nouvelles ressources, être plus en maîtrise en fait dans tes choix et dans ta vie. Et pareil sur la prépa mentale, c'est pas forcément je pallie à une difficulté, mais ça peut aussi être je renforce des qualités. Et dans le tennis à très haut niveau, c'est aussi ce qu'on peut voir même chez des étrangers des personnes type Federer ou autres qui vont chercher à renforcer leurs points forts.
Ouais.
Voilà.
Très bien. Et dans une autre, pour continuer un peu là-dedans, mais est-ce que justement, une des clés, parce que je pense que ce qui fait peur aussi peut-être, c'est l'individualité, c'est-à-dire que tu es confronté à tout, enfin, c'est toi-même face à quelqu'un du coup qui va essayer de faire sortir des choses aussi que tu n'as pas forcément envie de faire sortir, ou en tout cas d'appuyer sur des choses dont tu n'as pas forcément envie que ce soit mis en exergue.
Mm-hmm.
Tu travailles aussi avec des collectifs,
ouais.
En collectif. Est-ce que, déjà, est-ce que ta manière de travailler forcément en collectif et en individuel est différente ? Et est-ce que le collectif, finalement, serait pas une solution, en tout cas, pour peut-être essayer déjà, dans un premier temps, de ceux qui ont des appréhensions, de comprendre les mécanismes, en tout cas, d'être amené à... Après, vers l'individuel, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais...
En fait, pour moi, tu peux avoir différentes voies d'entrée. Alors, il peut y avoir directement l'individuel quand ils sont en effet prêts à travailler sur eux-mêmes et à se remettre en question. Après, notre travail, c'est aussi d'aller au rythme de l'athlète. C'est-à-dire que des fois, ils ne sont pas forcément prêts à ouvrir certaines portes ou entendre certaines choses. Donc, c'est aussi d'y aller étape par étape pour les aider à élaborer et à s'approprier la démarche. Le collectif, je pense que c'est une voie qui est intéressante. Et en fait, je fais une petite digression, mais c'est aussi pour mettre en perspective. Avec un collègue, Olivier, qui travaille dans le Sud, on anime tout un réseau avec des psys des préparateurs mentaux et des coachs pour déjà réussir à tous bosser ensemble dans la même direction et commencer à créer une démarche d'accompagnement française pour qu'à un moment donné, quand il y a des athlètes qui rentrent en structure, ils puissent avoir un accompagnement au fur et à mesure de leur carrière et aussi par rapport à leur niveau. Et puis pareil, l'idée c'est de former les entraîneurs pour qu'eux-mêmes aient des outils, ils sont au terrain au quotidien, enfin sur le terrain au quotidien, donc faire progresser les athlètes. Et ce qu'on a vu en réfléchissant aussi entre experts sur ces thématiques-là, c'est que à haut niveau, mais plutôt chez les jeunes, le groupe peut être intéressant parce qu'on va faire de l'éducation. Et donc, d'accord, du coup, on va les amener à travailler ensemble, à réfléchir sur certaines notions, sans aller non plus trop loin sur l'individualisation. Et plus tu vas vers le haut niveau et la haute perf, et plus t'individualises. Et tu vois, il y a des athlètes que je vais avoir en suivi, il y en a... il y en a une, par exemple, ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble. Maintenant, on est sur des détails pour justement qu'elle puisse prévoir certains imprévus, gérer des éléments sur la prise de décision, savoir dans quel état émotionnel elle peut chercher à se mettre, dans quelle bulle elle peut chercher à se mettre selon les situations, etc. Donc, ouais, le collectif est intéressant en éducation et après d'individualiser au fur et à mesure.
Ok. Et du coup, en termes d'individualité, est-ce que tu as une manière de travailler ? C'est vrai que nous, du coup, on parle beaucoup de la thématique des femmes dans le sport. Mm-hmm. Est-ce que tu as une manière de travailler qui va être différente entre les femmes et les hommes, par exemple ? Est-ce que tu vois des modes de fonctionnement qui sont différents d'un sexe à l'autre ?
Mm-hmm. Je pense que en termes de suivi, il faudrait que je regarde par rapport au suivi que j'ai eu. Mais globalement, tu vois, l'année dernière et cette année, je pense que j'ai plus de femmes que d'hommes.
Okay.
Parce que c'est peut-être plus facile de faire la démarche, et encore une fois par rapport à cette représentation de si je vais voir un psy ou un prépa mental, c'est que j'ai un problème.
Ouais.
C'est assez présent dans le sport, et les femmes sont plus ouvertes à ça que les hommes.
D'accord.
Et puis peut-être plus d'appétence pour apprendre à mieux connaître leur mode de fonctionnement. Après, sur des modes de fonctionnement, je pense que les femmes, on va être plus sur l'affectif, et donc le lien avec l'entraîneur va être différent que chez les hommes, où tu peux donner un objectif de travail, et puis voilà, ils vont mettre en place, ils vont pas forcément avoir besoin d'avoir un lien plus proche ou plus affectif ou plus de retour individualisé que les femmes. Après, clairement, c'est schématisé et c'est adapté, mais il peut y avoir
quand même des tendances que tu observes.
Ouais. Okay. Il peut y avoir au moins ces deux différences-là. Ouais.
Et effectivement, tu l'expliquais un peu, mais le fait que tu aies plus de femmes, tu penses qu'effectivement... Mais pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi les femmes ont moins peur, ou en tout cas ont moins d'appréhension d'aller voir un psychologue que les hommes ? Est-ce que... j'imagine qu'on va repartir sur des schémas liés à l'enfance et à l'éducation, peut-être. Mais je trouve ça assez intéressant, en fait. Je pensais pas que c'était le cas, à ce point-là.
Si, et aussi, parce que là, j'ai eu les stats de mes collègues pour qu'on voit un peu le nombre de suivis, là, sur 2018, parce que je vais faire une presse. On est, en gros, là, à 340 athlètes suivis.
D'accord.
Ce qui est énorme sur une année, réparti, on va dire, en 7-8 praticiens avec quelques coachs à côté. Je pense que l'aspect émotionnel étant aussi présent sur ce type d'accompagnement, pour faire le lien avec ce que tu as dit au niveau de l'éducation, les femmes, on nous apprend qu'on a le droit d'exprimer nos émotions. Alors dans le sport, tu es quand même censée être forte. Hein. Les hommes, on leur apprend moins à exposer et être proche de leurs émotions. Mmh. Donc ils vont aussi les exprimer différemment. Et dans le sport, c'est quand même aussi assez prégnant. C'est que tu montes sur le tapis quand tu es judoka, tu montes sur la piste quand tu es escrimeur ou tu plonges dans le bassin quand tu es nageur, tu es censé être fort. Tu n'es pas censé avoir de failles. Alors même qu'on en a tous et que justement, en prenant conscience de son mode de fonctionnement et de ses petites zones d'ombre, tu vas beaucoup plus facilement progresser et passer des caps.
Ok. Pour parler aussi du coup, toi, du résultat de ton travail, entre guillemets, est-ce que tu as un moyen de mesurer l'impact de ton travail sur une performance sportive, par exemple ?
Alors, des chercheurs ferais test-retest. C'est-à-dire, tu passes un questionnaire en début de suivi et tu passes un questionnaire en fin de suivi. C'est peut-être ce qui arrivera plus tard pour justement voir comment ils ont évolué sur certaines habiletés. Après, il y a différents feedbacks. Il va y avoir le feedback des athlètes qui vont aussi en séance pouvoir dire « bah là, je me sens mieux, là, je comprends mieux mon mode de fonctionnement, là, j'ai trouvé des clés et quand je l'ai appliqué en compétition, clairement, ça m'a aidé. » Donc ça, c'est le premier retour qui, pour moi, est le retour principal. Mmh. Il y a le retour des entraîneurs et pour moi c'est pas anodin que on soit j'ai un autre collègue qui bosse avec moi sur l'escrime et sur une autre arme qui nous sollicite régulièrement, qu'on fasse des points toutes les semaines, qu'on soit présent sur certaines compétitions et certains stages, c'est que les entraîneurs voient aussi la différence et du coup font ce feedback là de dire bah sur tel et tel aspect ouais il y a un progrès. Et après sur les résultats, si tu regardes sur une...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Une échelle plus large, clairement, il y a des résultats qui peuvent suivre en compétition. Alors, c'est pas de s'arrêter uniquement là-dessus, parce que ça peut aussi être un processus psychique qui prend du temps, et c'est pas je fais une séance et j'ai un résultat direct. Mmh. C'est comme un entraînement technique. C'est t'es dans la rigueur et dans l'investissement, tu t'appropries certains outils, si on parle de prépa mentale, pour les mettre en place et que ce soit automatisé. Et par exemple, là, à l'escrime, au monde, si on regarde ce qui s'est fait cet été, il y a eu des perfs. Mmh. Et sur l'individuel, il y a eu par exemple Enzo qui a fait champion du monde et Pauline qui a fait vice-championne du monde. Et il y a eu des résultats aussi sur les Europes avant. Après, il peut y avoir des perfs individuelles de certains athlètes. Alors, il y en a qui préfèrent garder justement confidentielle la démarche, donc je peux pas en parler parce qu'ils en ont pas parlé. Il y en a qu'on en parlé. Il peut y avoir par exemple Madeleine Malonga au judo. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Elle appréhende vraiment très bien les outils. Elle se les approprie. On se voit très régulièrement. Et depuis 2 ans, il y a eu des progrès. Et là, elle est numéro 1 française dans sa caté en course pour les Jeux Olympiques. Donc c'est pas juste ça qui fait la différence, mais je pense que dans une démarche globale où l'entraîneur accompagne, il y a la prépa physique, il y a l'accompagnement au niveau psy et au niveau de la prépa mentale, tout cumulé avec aussi la diète, etc., ça va avoir un impact sur la perf.
Et du coup, ça va être une question, j'imagine, que pour laquelle tu vas peut-être avoir du mal à répondre, mais en tout cas, sur une performance globale, on va dire, sur, d'un athlète, sur un schéma global, de ton point de vue, à combien représente l'aspect mental dans la performance? Si tu devais dire, pas donner un pourcentage, par exemple.
Waouh! Je pense que c'est variable selon les athlètes. Dans le sens où il y en a qui vont être réguliers dans l'accompagnement et dans la mise en place sur le terrain. Et donc, du coup, l'impact va être important. Il y en a qui vont le faire comme ça, entre deux, ou utiliser, par exemple, si on reste encore sur la prépa mentale, des outils juste quand ça va pas. Ça a pas le même impact parce que c'est pas automatisé. Alors, mon chef te répondrait 50%.
Ouais.
Je pense qu'on est quand même, encore une fois, à très haut niveau, parce qu'ils sont tous très forts au niveau technique, tactique et physique. On peut être à 30-50% selon les athlètes. Après, c'est subjectif. C'est énorme. Et je pense qu'il faudrait aussi faire des recherches là-dessus.
Il n'y a jamais de recherches justement qui ont été faites à ce sujet-là?
C'est une question qui revient, qui est récurrente. Il y en a certains qui font passer des tests en prépa mentale, justement pour voir l'avant, l'après. Personnellement, je l'ai pas fait. parce que je suis plus terrain que recherche, mais je pense que ce serait intéressant. Et tu peux même aller chercher certaines infos, par exemple avec nos collègues sociaux qui ont sorti une étude très intéressante sur les Jeux de Rio. Ils ont interrogé un certain nombre d'athlètes qui ont fait les Jeux olympiques et paralympiques, et ce qui ressort, c'est que leur besoin, c'était principalement la prépa mentale. Ce qu'on a cherché à mettre en place aussi, là, sur l'Olympiade, Tokyo, et ensuite sur Paris 2024. Il y a aussi des moyens qui sont ouverts, et notre DG aussi, dans cette optique-là, de pousser l'accompagnement psycho pour les athlètes et les staffs.
Et est-ce que tu as déjà eu des cas d'athlètes qui viennent te voir et où tu dis, oh, ben, en fait, il n'y a pas de travail à faire? Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est possible déjà de rencontrer un athlète et te dire, en fait, bah, il est déjà dans une démarche où il n'a pas besoin d'aide extérieure?
Je pense qu'il y en a qui, naturellement, ont plus de facilité là-dessus. Après, tu peux toujours améliorer. Tu vois, c'est comme dans le sport, on est tout le temps en train de chercher le petit truc en plus qui va faire que, au final, dans tous les sports, les athlètes sont plus performants que peut-être même 50 ans en arrière, parce qu'il y a plus de moyens et que et qu'on est toujours dans cette optique de perfection. Et l'autre aspect, c'est que l'humain, au quotidien, on évolue. Tu peux avoir des événements de vie qui vont changer tes besoins, ta manière de fonctionner, tes réactions, etc. Et donc, du coup, il y a toujours des choses qui peuvent être aussi travaillées ou renforcées.
J'ai une question assez pragmatique et qui va plutôt concerner les sportifs amateurs qui vont écouter cette interview et qui seraient amenés à faire appel à un coach mental. Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont aller sur Internet et taper « coach mental ». Sauf que, comme tu le disais, c'est pas une profession qui est véritablement réglementée. On trouve un peu de tout et des solutions toutes faites sur Internet. Donc ma question serait, comment dissocier un vrai coach mental d'un charlatan ?
C'est vrai que ça peut être extrêmement difficile. En plus, sur Google, il y en a qui ont payé leur mots-clés et du coup qui vont être référencés sur les premières pages. Et c'est pas forcément, alors je les connais pas tous, hein, mais en tout cas des noms qui reviennent dans le milieu. Je pense que c'est de voir la formation, ça c'est vraiment important. Et c'est pour ça que, alors, c'est pas l'unique réponse, mais un psy qui s'est spécialisé en prépa mentale, pour moi, c'est le garant aussi d'un cadre et d'une certaine posture. Alors, tu peux avoir des bons ou des mauvais, mais globalement, il y a quand même des compétences qui ont été validées, 5 ans d'études, une expérience terrain et une posture. Après, il y a aussi certains coachs qui sont spécialisés en préparation mentale et qui ont suivi des bonnes formations ou des bonnes écoles. Donc c'est aussi peut-être de se renseigner sur les formations et de se renseigner parfois avec qui ils ont travaillé. Et le paradoxe, c'est que parfois, il y en a qui vont mettre en avant tel ou tel athlète avec qui ils ont travaillé. Ils sont beaucoup sur cet aspect-là. Et donc, à se mettre en valeur peut-être de manière égotique. Là où ta posture, c'est aussi, si les athlètes en parlent, ok, très bien, mais sois aussi discret. C'est comme ici, il y a énormément de champions au final qu'on peut accompagner ou de championnes on va pas chercher à se mettre en valeur par rapport à ça. Donc ça peut aussi être un indicateur, c'est comment tu te vends et quel message tu fais passer et ta formation.
Et justement, tu parlais qu'un coach mental, c'est des personnes qui ont généralement fait des études de psy avant. Moi, en préparant cette interview, je suis tombée sur un article qui titrait Coach mental, 2 points, l'alternative au psychologue qui va vous sauver.
Waouh ! J'aimerais bien lire l'article.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'un titre comme ça ?
Pour moi, c'est problématique parce qu'un psy, il n'est pas là pour te sauver. Il est là pour t'accompagner à ton rythme et t'aider à toi trouver tes solutions. Donc, quand tu te positionnes comme ça, il y a un vrai problème. Et la prépa mentale, c'est un outil souvent qui arrive dans un deuxième temps. J'ai eu le cas à un moment donné, j'étais dans un dans un regroupement d'experts avec des psys, des prépas mentaux, des sophros, etc. Et puis, il y a un confrère qui est uniquement PM, prépa mental, pardon, et qui commence à exposer le cas d'une athlète. Et bah, l'athlète, en soi, elle était en contre-perf, elle n'arrivait pas à performer en compétition, moins de motivation, etc. Et puis, il donnait des outils, il ne comprenait pas que ça ne marche pas. Et à un moment donné, je dis, mais est-ce que tu t'es posé la question de la dépression? C'est-à-dire que là, ton athlète, elle est très certainement dépressive. Et donc, du coup, lui donner plus d'outils, t'es juste en train de lui montrer qu'elle n'arrive pas à gérer ce qui se passe et que le travail, il est d'abord psy pour gérer la dépression. Et ensuite, tu vas aller sur la perf. Mais tu vas aussi travailler sur tes différents piliers. La sphère personnelle, que ce soit familiale, affective, amicale, professionnelle ou scolaire. Et donc, du coup, je pense que c'est aussi important de se dire ça, c'est quelque chose qui arrive dans un deuxième temps, quand il y a un travail qui a été fait ou qui n'a pas de problématique particulière au niveau psycho.
Justement, ça m'amène sur une autre question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être confronté à des sportifs sur lesquelles tes méthodes ne marchaient pas pour X raisons, ou alors tu t'es rendu compte que c'était pas d'un coach mental dont ils avaient besoin, ou alors avant même de faire un travail de coach mental, tu t'es rendu compte qu'il y avait un autre travail à réaliser avant?
Ouais, en fait, t'as donné toutes les réponses. C'est-à-dire que y en a qui arrivent et qui me disent voilà, j'ai besoin de bosser sur ma perf, parce qu'en fait, c'est ma perf qui va pas bien, c'est pas moi. C'est souvent ça aussi sur la prépa mentale. Et du coup, c'est des fois plutôt psycho-éducatif, mais je vais creuser, je fais toujours un entretien où j'aborde les différents domaines de vie pour vraiment comprendre et voir s'il n'y a pas autre chose à côté qui peut être travaillé. Et du coup, il y a des fois où on va être sur une sphère psy et je vais dire là, ce dont tu as besoin, c'est pas la prépa mentale, ce sera dans un deuxième temps, mais c'est de travailler sur tel ou tel type de thématique ou de problématique. Et des fois, on est en double suivi. Il y a des collègues qui vont accompagner le même athlète que moi, mais des fois plus sur un versant psycho et moi sur un versant prépa mental, ou inversement. Justement pour aussi, comment dire, être sur les deux valences. Et pour répondre à ta question, il y avait l'aspect aussi, comment dire, outils. J'ai déjà eu des athlètes où je pense que les outils que je proposais, en effet, n'étaient pas forcément adaptés, ou c'était pas le bon moment. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est que des fois, c'est trop tôt. Et aller chercher des choses plus perso ou plus psycho, c'est trop difficile pour l'athlète ou pour un patient lambda. Hein, et donc, du coup, ils reviennent pas. Et après, il y a aussi le côté confiance. C'est-à-dire que pour moi, c'est 50% du travail, c'est de te sentir en confiance avec la personne avec qui tu travailles. Et donc, je pense que des fois, le lien, il fit très bien. Et puis, il peut y avoir des moments où il y a moins de confiance. Et donc, du coup, c'est mieux d'orienter vers quelqu'un d'autre.
Et est-ce que toi-même, tu te coaches? Parce que j'imagine que tu parlais d'empathie, donc tu reçois quand même énormément de choses, d'informations qui peuvent être parfois, j'imagine, assez bouleversantes ou pas, d'ailleurs. Mais est-ce que tu as une démarche toi-même de te coacher toi-même pour réussir à être meilleur ou... Comment ça se passe?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Depuis que j'ai entrepris mes études de psy, j'ai vu un psy. En fait, j'ai vu plusieurs psys aussi par rapport à mon évolution. Donc, j'ai toujours travaillé sur moi, sur le versant, on va dire, conscient, inconscient et mes différents modes de fonctionnement. Et pour moi, ça, c'est primordial en termes, enfin, pour un psy, de faire un travail sur soi. Après, je suis un peu comme les athlètes, j'ai tendance à être sur certains aspects perfectionniste et à toujours vouloir trouver des moyens de les accompagner, de mieux les accompagner. Donc ça va être en me formant à différentes techniques thérapeutiques ou différents outils en préparation mentale, j'en ai même créé moi-même, et il y a des outils que je vais m'appliquer dans certains contextes, parce que des fois il peut y avoir des situations plus anxiogène, et donc je vais mettre des outils de relaxation, de routine de perf, etc., pour être prête à l'instant T.
Et ben justement, tu parles d'outils. Il y a quelque chose qui revient assez souvent, assez fréquemment. On voit les athlètes avant une compétition, par exemple, écouter de la musique pour se mettre dans leur bulle. Est-ce que c'est des techniques que toi, tu utilises aussi? Est-ce que, par exemple, tu leur conseilles d'écouter tel ou tel type de musique ou tel morceau de musique qui pourrait les aider justement dans leur concentration avant une échéance ou avant de rentrer en compétition. Est-ce que tu utilises des outils externes à ta propre expertise, entre guillemets ?
Ouais, en fait, pour moi, les routines de perf, c'est un outil en soi. Donc, c'est la grande thématique de dire bah, tous les athlètes peuvent le travailler. Et après, t'individualises. Il y en a qui vont avoir besoin, par exemple, pourquoi pas d'utiliser de la musique, soit pour se relâcher, se détendre, soit pour commencer à s'activer. Il y en a qui vont avoir besoin d'avoir un échauffement, alors ça, c'est quand même assez récurrent, mais d'avoir un bon échauffement pour évacuer un peu le stress et faire monter le cardio. Commencer à être prêt physiquement et donc petit à petit rentrer dans sa bulle. Il y en a qui vont avoir besoin de faire l'imagerie mentale pour voir quel schéma ils vont appliquer ou dans quel état d'esprit ils veulent aborder tel combat. Il peut y avoir des ancrages. Alors, ça se voit quand tu connais les athlètes parce que tu l'as travaillé, qui vont faire par exemple certains gestes pour se remettre dans leur bulle. Nadal, c'est l'exemple le plus simple. Ouais. Alors, il y en a qui vont dire que c'est un rituel. Un rituel, c'est lié à une croyance. Pour moi, c'est pas un rituel, c'est un ancrage pour systématiquement revenir sur l'instant présent. Parce que lui, il a besoin d'être concentré et relâché sur chaque point. Ça, c'est une routine. Donc, chaque routine va être très spécifique parce qu'elle va être liée au mode de fonctionnement de l'athlète et à son besoin.
Et est-ce que tu as des exemples comme ça ? Enfin, si je devais te poser la question, quel est selon toi les athlètes ? Alors peut-être que c'est des athlètes que tu as eus avec qui tu as travaillé ou pas, mais qui selon toi a vraiment un exemple en termes de capacité mentale et de force mentale dans son sport. Est-ce que tu aurais des exemples d'athlètes ?
Vu qu'il y en a quand même dans les suivis que j'ai, par exemple, beaucoup où ça reste confidentiel, ça limite. Je pense que l'exemple le plus récent, ça peut être par exemple Madeleine Malonga, parce que justement elle a cette capacité d'appréhension, elle a cette rigueur, elle a aussi, je pense, certaines facultés qui font que on a pu, une fois posé les bases, assez vite aller sur des éléments de détail. Après, il peut y avoir des personnes qui ont peut-être moins besoin ou c'est moins leur démarche et qui vont aussi l'appréhender sur le terrain, aussi en lien avec le travail que je vais faire avec l'entraîneur. Et c'est l'exemple de certains fleurettistes, par exemple Enzo Lefort, lui il va être voilà, plus sur l'intégration sur le terrain et en lien aussi avec des choses qui peuvent être mises en place avec l'entraîneur.
Pour sortir du coup un petit peu de l'aspect sportif professionnel, pour venir plus dans l'aspect sportif amateur, c'est-à-dire nous, les gens, les autres gens, tout le monde, comment est-ce que tu aurais des conseils, par exemple, imaginons, je viens de voir, je te pose la question et je te dis, je ne suis pas du tout professionnel, je suis totalement en amateur, mais je fais des compétitions sportives de temps en temps ou je vais faire des courses, je cours, etc. Mais je suis tétanisée par le stress. Dès qu'il y a un enjeu, je n'y arrive pas. J'ai peur de ne pas réussir, mais c'est totalement personnel. Est-ce que tu aurais des tips, des petits exercices, je ne sais pas, pour aider, par exemple, pour surmonter ce stress-là dans la vie de tous les jours. Bon, là, je donne l'exemple d'une performance, d'un exercice physique.
Alors, pour moi, tu as deux niveaux. Et tu vois, j'en ai eu beaucoup en suivi hors INSEP, par exemple, des coureurs. Parce que c'est un des sports qui est le plus facile à faire. Tu prends tes baskets, tu t'inscris un 10 km, un marathon ou un trail, tu peux pratiquer. Ces demandes-là, elles sont récurrentes. Et donc, du coup, le premier niveau, pour moi, c'est le niveau plus inconscient. C'est pour ça que le côté psycho est clairement important. Pour comprendre qu'est-ce qui te stresse ? Est-ce qu'il y a des choses que tu es en train de rejouer dans ta problématique, entre guillemets, par rapport au fait de, pas être à la hauteur ? parce que tu as intégré cette croyance de t'es pas à la hauteur. Mmh. Et donc du coup, bah quand tu arrives sur le départ, tu te dis que t'es pas à la hauteur et que tu vas pas y arriver. Donc ça, c'est un truc qui va être plutôt psycho à travailler, plus sur l'inconscient et en lien avec ton histoire et ton mode de fonctionnement. L'autre strate qui pour moi arrive dans un deuxième temps, comme la prépa mentale, ça arrive dans un deuxième temps, ça va être par exemple, selon tes besoins, peut-être avoir des techniques de relaxation, aller voir sur la sophro, ou aller voir des techniques de respiration, qui au final sont assez simples à appréhender pour soit te relâcher, soit t'activer. Tout ce qui est mindfulness, méditation, c'est aussi très intéressant parce que ça aide sur la gestion des émotions, à moyen long terme, sur la gestion de la concentration et sur l'acceptation et une meilleure, on va dire, enfin une bienveillance vis-à-vis de soi-même. Après, il peut y avoir le fait de travailler son discours interne. Comment tu te parles ? Si tu te dis non, mais de toute façon, je vais pas y arriver, je suis qu'une merde. Ok, bon, bah ça va peut-être être plus compliqué. Si par contre, tu découpes, je reste sur l'idée de course à pied, ton marathon en 3 ou 4 phases, tu donnes des sous-objectifs et tu te prépare à avoir un discours interne positif selon les situations qui peuvent arriver, bah déjà, tu seras aussi plus performant. Et après, il peut y avoir des petites techniques de visualisation ou autre. Mais déjà, prendre conscience de ton discours interne, voir comment tu peux le changer et aller chercher des outils de relaxation, de respiration ou de mindfulness. Ça, je pense que ça peut être accessible à tout le monde.
On est en quelque sorte un peu notre meilleur psy dans un premier temps, quoi.
Je pense qu'on a tous les ressources pour y arriver. Après, le fait d'avoir aussi quelqu'un qui t'accompagne, ça, pardon, ça permet aussi de prendre du recul, des fois de te renvoyer en miroir ton mode de fonctionnement et de te donner des pistes ou développer des outils. Donc, c'est un peu comme moi, je suis psy. Mais en même temps, j'en apprends tous les jours quand je vois ma psy pour travailler sur moi par rapport à certains éléments. Parce que en s'auto-regardant, même si ce n'est pas un mot qui existe, tu restes dans du subjectif. Et en ayant un point de vue extérieur, tu vas à un moment donné avoir une vision plus distancée, plus large, et donc trouver des solutions plus adaptées.
Ok. Bon, voilà, si vous nous écoutez, vous savez quoi faire pour améliorer vos performances ou en tout cas ne plus stresser. Pour clore un peu du coup cette interview, on a deux questions récurrentes qu'on pose à toutes nos invitées. Mm-hmm. La première, si je devais te demander de choisir un moment de sport que tu as vécu ou que tu as vu, ou peu importe, qui a été marquant pour toi, ce serait lequel et pourquoi ?
Ce serait la Coupe Davis l'an dernier, quand donc Yannick Noah m'a appelé pour venir sur l'accompagnement des athlètes, enfin des joueurs. Que ce soit, en fait, il y a eu énormément de choses qui ont été pour moi incroyables. Déjà, le personnage humainement est top. C'est un vrai manager, c'est un vrai leader. On a pu travailler vraiment en interaction l'un avec l'autre par rapport avec l'accord des joueurs pour lui donner des billes sur le coaching, sur le mode de fonctionnement et même à un moment donné, tu vois, sur le premier match, j'avais proposé d'être plutôt en off. Plutôt discrète aussi pour éviter de rajouter ce côté il y a une psy ou une PM dans l'équipe. Et au final, il m'a demandé d'être juste derrière lui sur le banc pour aussi lui faire un feedback. Donc, ce moment-là, l'interaction avec les joueurs, avec le staff, a été très intéressant. Humainement et au niveau professionnel. Et il y a eu aussi, et là c'est plus le côté émotionnel, de rentrer dans le stade donc c'était à Lille, avec un public incroyable, avec toute cette énergie, en portant aussi le maillot de l'équipe de France. Alors voilà, pour moi, représenter mon pays, c'est une fierté. Chanter la Marseillaise tous ensemble, avec tout le monde derrière, avec les joueurs en face, etc. Ça a été un moment aussi magique émotionnellement.
C'est beau. Je le vis à travers tes mots. J'ai presque la petite larme à l'œil. Ok. Et dernière question, du coup. On pose cette question-là qui est simple et qui est: quelle est ta définition d'une championne ?
Alors, je pense que outre les performances sportives, outre le résultat, c'est quelqu'un qui a appris à mieux se connaître, donc a aussi été en capacité ou qui est en capacité d'aller voir ses points forts et aller voir aussi ses petites zones d'ombre pour, en se connaissant mieux, réussir à s'adapter aux différents contextes, sportifs et non sportifs. Ça va aussi être une personne qui est engagée, qui est rigoureuse, qui va mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place sur les différents piliers de la perf, donc technique, tactique, physique, mentale et sur l'hygiène de vie, qui va aussi montrer une attitude, une posture de championne. C'est outre cette rigueur, c'est aussi des fois l'accessibilité par rapport aux plus jeunes pour être dans la transmission, ce côté humain et cette capacité d'échange. Donc je pense que c'est un ensemble de facteurs, de qualités et en même temps de choses que tu peux apprendre et développer qui font que il y en a, oui, clairement, quand ils sont dans mon bureau, je me dis c'est un champion ou c'est une championne, parce qu'ils ont aussi l'attitude qui va avec.
Superbe. Merci beaucoup en tout cas, Anaëlle, pour cet entretien fort intéressant. Et puis, à une prochaine fois, en tout cas, j'espère.
Avec grand plaisir. Du coup, l'échange a été aussi très intéressant pour moi, en compte de certains aspects sur mon métier. Donc, c'est avec plaisir que j'ai partagé tout ça avec toi et puis avec les personnes qui vous écouteront.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt. Everybody's got opinions on nothing. Si ce parcours de femme vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et SoundCloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. À très vite!